du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le troisième dimanche de l'Avent. Il fut un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Celui-ci vint pour un témoignage, pour témoigner de la lumière, afin que tous croient par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais pour témoigner de la lumière. Tel est le témoignage de Jean, lorsque de Jérusalem, les Juifs envoient vers lui des prêtres et des Lévites pour qu'ils l'interrogent.
« Toi, qui es-tu ? »
Il confesse, il ne nie pas. Il confesse.
« Moi, je ne suis pas le Christ. »
Il l'interroge.
« Qui donc ? Toi, es-tu Élie ? »
Il dit.
« Je ne suis pas. »«
Es-tu le prophète ? » Il répond.
« Non. »
Ils lui disent donc.
« Qui es-tu ? Pour que nous donnions réponse à ceux qui nous envoient, que dis-tu de toi-même ? »
Il déclare.
« Moi, la voix d'un crieur dans le désert, rendez droit les chemins du Seigneur, comme le dit Isaïe le prophète. »
Des envoyés étaient du groupe des pharisiens. Ils l'interrogent et lui disent.
« Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?»
Jean leur répond et dit.
« Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient à ma suite. » Lui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale.
Cela survient à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, ce troisième dimanche de l'Avent, la liturgie puise dans le récit évangélique de Jean. Et pour décrire la préparation de la venue du Messie. Notre texte est en effet tout entier centré sur le Baptiste comme étant le précurseur du Christ. Mais on ne peut vraiment comprendre les implications de ce texte sans le replacer dans le contexte qui lui donne son sens. Eh bien, le récit évangélique de Jean comporte un prologue qui est de style poétique et qui est comme une fresque qui décrit la façon dont Dieu se communique aux êtres humains au cours de l'histoire. Le verset central, c'est « La Torah fut donnée par Moïse ». Et cela, c'est la première alliance. « L'amour véritable nous parvient par Jésus ». Eh bien, c'est le renouvellement de l'alliance. Jésus est le Messie qu'Israël attend, mais ce Messie ne jouera pas un rôle politique. Il sera celui qui nous interprète en vérité qui est Dieu, car il est l'unique engendré de Dieu. Et bien plus, il nous permet de devenir à notre tour et réellement des fils et des filles de Dieu. Cette fresque de l'alliance nouvelle et éternelle, eh bien, c'est tout le récit de l'Évangile qui en sera comme le développement. La fin du chapitre va d'abord nous montrer comment ce Messie a été découvert par ceux qui deviendront ses premiers disciples, André, Simon, surnommé Pierre, Philippe et Nathanaël. Et ensuite, eh bien, le début du chapitre 2, ce sera la noce de Cana qui, d'une certaine manière, on pourrait dire, sonne comme les trois coups qui ouvrent la nouvelle alliance, celle qui va être scellée par la vie d'amour de Jésus. Entre le prologue et les débuts de la mission de Jésus, eh bien, c'est le texte d'aujourd'hui qui illustre la personne de Jean le Baptiste et surtout son rôle pour faire connaître Jésus comme le Messie.
Il fut un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Celui-ci vint pour un témoignage, pour témoigner de la lumière, afin que tous croient par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais pour témoigner de la lumière.
Ce verset du prologue résume bien le dialogue entre les prêtres, les Lévites et le Baptiste, le dialogue qui va suivre. Jean n'est pas la lumière, mais il en est le témoin. Eh bien, qu'évoque la lumière dans l'esprit des Juifs compatriotes de Jésus ? Dans les écrits bibliques, la lumière est associée à l'enseignement de Dieu, à sa Torah. Écoutons deux versets de psaume.
Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon chemin. Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront vers tes demeures.
Le livre de la sagesse parle aussi de la lumière incorruptible de la Torah. Et on connaît la merveilleuse prière du roi Salomon pour demander la sagesse.
Plus que santé et beauté, j'ai aimé la sagesse. j'ai préféré la voir plus tôt que la lumière, car son éclat ne connaît pas de repos. Car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté.
Cette lumière de la Torah, de la sagesse, est un don de Dieu. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Toute intervention de Dieu envers son peuple sera également décrite comme un don de lumière. Le jour du Seigneur sera lumière et non ténèbres, dit le prophète Amos. Et Isaïe prophétise que la naissance d'un enfant de roi, un Messie, sera porteuse de lumière.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom, Prince de la paix.
Le serviteur de Dieu que décrit le livre d'Isaïe sera bien sûr alliance pour le peuple, mais lumière pour les autres nations. Dans la situation difficile que connaît le peuple juif au début de notre ère, Jean vient donc témoigner que bientôt la lumière de Dieu va briller sur son peuple. Mais lui, Jean, n'est pas cette lumière, il faut donc attendre quelqu'un d'autre.
Le Baptiste se dit le témoin de la lumière. Comment ?
Eh bien, le personnage de Jean nous est connu non seulement par les récits évangéliques, qui tous le décrivent comme le précurseur de Jésus, mais aussi par un historien juif du 1er siècle qui s'appelle Flavius Joseph. Un mouvement religieux se réclamant du Baptiste rayonnera d'ailleurs à Éphèse bien après la mort de Jean, et on trouvera des traces de ce mouvement de Jean en Syrie jusque dans les années 300. La foule des Juifs sera attirée par la prédication de Jean, comme nous dit le récit de Luc.
Tout le peuple, en l'écoutant, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont repoussé le dessein que Dieu avait pour eux, en ne se faisant pas baptiser par lui.
Oui, cette mission de Jean va inquiéter les autorités religieuses et de Jérusalem. Elles envoient donc une délégation officielle pour interroger cet homme qui pratique un nouveau rite. Et l'interrogatoire se divise en deux parties. D'abord, sur son identité, qui es-tu ? Puis, par rapport au baptême, pourquoi baptises-tu ? Les questions qui sont posées à Jean sont pratiquement celles qui se posent à propos de Jésus dans les trois autres récits évangéliques.
En chemin, Jésus interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils lui disent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. » Et lui leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ. »
Eh bien, que signifient ces allusions à Élie et aux prophètes ? « Es-tu Élie ? » Que vient faire en effet ce prophète qui a vécu 8 siècles avant Jésus ? Eh bien, c'était un personnage populaire à cause de son intransigeance dans la foi et de l'efficacité de sa prière. Et la tradition voulait qu'il ait été emporté au ciel de son vivant. Aussi, on attendait son retour comme précurseur du Messie. C'est ce que nous trouvons dans un texte de Justin qui s'appelle « Le dialogue avec Tryphon ».
Le Messie n'a aucune puissance tant qu'Élie n'est pas venu loindre et le manifester à tous.
Dans le contexte de ces croyances, on comprend qu'on ait voulu reconnaître Élie soit en Jean, soit en Jésus. Cet espoir du retour d'Élie correspondait d'ailleurs à une prophétie du prophète Malachie.
« Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive mon jour grand et redoutable. » Et ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. »
Matthieu rapporte aussi une discussion sur Élie entre Jésus et ses disciples, une discussion qui se situe après la mort du Baptiste.
Les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? » Il répond, « Certes, Élie va venir et il rétablira tout. » Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu, et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste.
Dans le récit de Luc, il est dit de Jean qu'il est venu avec l'esprit d'Élie.
Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. et il marchera par-devant sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie.
Mais dans notre récit, le Baptiste va nier être Élie. Je ne le suis pas. Alors comment comprendre cette réponse? Eh bien, peut-être en ce sens qu'Élie pouvait être perçu comme un prophète dont le rôle serait surtout politique. Il organiserait la libération d'Israël du joug des Romains. Alors que le récit de l'évangile de Jean veut nous présenter le Baptiste comme le témoin d'un Messie qui sera lumière du monde par sa sagesse et par son amour.
Jean n'est pas davantage le prophète.
Oui, l'interrogatoire continue. Es-tu le prophète? Mais alors, de quel prophète s'agit-il? En cette époque, les Juifs avaient conscience de ne plus avoir de prophète depuis fort longtemps. Ainsi s'exprime Azarias dans le livre de Daniel.
« Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations. Nous voici humiliés par toute la terre, aujourd'hui à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps chef, prophète ni prince. »
Et dans le premier livre des Maccabées, on retrouve une constatation semblable.
« Il s'y vit alors en Israël une oppression telle qu'il ne s'en était pas produit de pareil depuis le jour où l'on n'y avait plus vu de prophète. »
Ce long silence de Dieu laissait supposer que le prophète, qui serait appelé à rompre ce silence, aurait un rôle dépassant celui des anciens prophètes. Ce prophète à venir, on en voyait l'annonce d'ailleurs dans le livre du Deutéronome.
« Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. »
Tout Israël était donc en attente, à l'époque de Jésus, d'un tel prophète qui, comme Moïse, interpréterait à nouveau la Torah et serait capable de tirer le peuple de ses malheurs. Eh bien, le Baptiste est sans doute conscient qu'il n'est pas ce grand prophète attendu, même si Matthieu et Luc proclament qu'il est le plus grand des prophètes. Il n'est que le témoin du véritable prophète qui sera Jésus, parole de Dieu, qui se fait vie d'homme. Jean va pouvoir quand même répondre à ses enquêteurs. Peut-être a-t-il conscience d'accomplir son rôle dans la lignée des textes d'Isaïe qui parlent du serviteur de Dieu.
« Je suis la voix du crieur. À travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. »
Oui, ce texte d'Isaïe était très utilisé à l'époque de Jésus, comme un texte de la communauté de Qumran nous le manifeste.
« Quand cela existera en Israël, ils se sépareront du milieu de la demeure des hommes pervers, afin d'aller au désert pour y préparer le chemin de celui-là, ainsi qu'il est écrit. Dans le désert, préparez un chemin pour le Seigneur Dieu. Tracez droit dans la steppe une route pour notre Dieu. Voilà la recherche de la Torah. »
L'Évangile utilise librement ce texte d'Isaïe en modifiant la ponctuation. Il ne s'agit plus de préparer la route du désert, cette route par laquelle les Juifs qui sont exilés à Babylone vont revenir. C'est le crieur lui-même qui est situé dans le désert où il proclame la conversion. Ce désert est d'ailleurs tout autant un lieu géographique, le lieu où le Baptiste se tient, que le lieu symbolique de la conversion, tel que le décrit le prophète Osée.
« C'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. »
Le rôle du prophète est ici de prêcher une conversion intérieure pour vivre plus fidèlement la Torah. Luc va d'ailleurs préciser comment il faut se convertir et préparer le chemin du Seigneur.
Si quelqu'un a de tunique, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des collecteurs d'impôts lui dirent, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé. » Des militaires lui demandaient, « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. »
Et l'écrivain juif Flavius Joseph, un historien, confirme cette description de Luc dans le portrait qu'il trace de Jean.
C'était un homme de bien, exhortant les Juifs à cultiver la vertu et à user de justice dans les relations entre eux et de piété envers Dieu, afin de se joindre au baptême. L'interrogatoire se poursuit sur la question du baptême.
En l'interrogeant sur son identité, es-tu Élie ou le prophète, les enquêteurs voulaient savoir si Jean s'attribuait un rôle messianique, un rôle de messie. Et devant sa réponse négative, alors ils poursuivent.
Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu ?
Les pharisiens devaient donc s'attendre à ce que la venue du Messie comporte un baptême. C'était d'ailleurs aussi l'attente des Esséniens de Qumran, comme le dit le manuel de discipline.
Dieu, par sa vérité, nettoiera toutes les œuvres d'un chacun. Et il fera jaillir sur lui l'esprit de vérité comme de l'eau lustrale.
Jean répond en effet qu'il baptise seulement dans l'eau, mais le Messie, lui, baptisera dans l'esprit. Comment comprendre cette différence entre le baptême d'eau, qui est celui de Jean, et le baptême d'esprit, qui sera celui du Messie? Le prologue nous a averti que Moïse a donné la Torah dans laquelle chaque Juif se plonge pour tenter de vivre sans la lumière de Dieu. Mais la Torah est insuffisante pour faire vivre de Dieu selon son esprit. L'apôtre Paul le décrira admirablement dans sa lettre aux Romains au chapitre 7.
Je n'ai connu le péché que par la Torah. Ainsi, je n'aurais pas connu la convoitise si la Torah n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Le commandement qui doit mener à la vie s'est trouvé pour moi mener à la mort. Ainsi donc, la Torah est sainte et le précepte est saint, juste et bon. Mais c'est le péché qui, se servant de ce qui est bon, m'a donné la mort. Nous savons, certes, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu comme esclave au péché. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et que le mal que je ne veux pas, je le fais. Malheureux humain que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort?
On trouvait déjà d'ailleurs chez nombre de prophètes cette idée que la Torah est insuffisante. Écoutons le prophète Ézéchiel.
Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes.
Et le prophète Jérémie promet aussi que Dieu va refaire une nouvelle alliance.
Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Je déposerai ma Torah au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple.
Voilà donc la mission du Messie dont Jean va être le témoin. Inaugurer une alliance spirituelle avec le Messie, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient mettre en notre esprit son amour et sa grâce pour nous délivrer justement du mal qui domine la mort. Et l'apôtre Paul s'écrira
« Malheureux humain que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?» Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Messie, notre Seigneur.
Le baptiste, lui, n'a donc que le rôle d'être le témoin de celui qui vient baptiser dans l'Esprit divin.
Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas.
Ce baptême dans l'esprit sera la mission de celui que vous ne connaissez pas. Que signifie cette phrase ? Eh bien, c'est encore un des thèmes de la tradition juive, que le Messie vivrait d'abord comme un inconnu, quelqu'un qui resterait caché et ne se révélerait Messie que lorsque Dieu le voudrait. Écoutons Justin dans le dialogue avec Tryphon.
Le Christ a supposé qu'il soit né et qu'il existe quelque part. C'est un inconnu. Il ne se connaît pas lui-même. S'il en est qui disent que le Messie est venu, on ne sait qui il est. C'est seulement lorsqu'il se manifestera dans la gloire qu'alors on saura qui il est.
On trouve un écho de cette tradition dans le récit de Jean lorsque des Juifs s'interrogent sur Jésus.
Celui-ci, nous savons d'où il est. Tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne connaîtra d'où il est.
Alors comment comprendre ce fait que le Messie doive être un inconnu ? Peut-être parce que, dans la pensée de beaucoup, le Messie doit être un personnage divin. On ne le découvre tel que lorsqu'il se manifeste dans la gloire. On trouve peut-être un écho de cette croyance dans la bouche même de Jésus, ainsi au grand prêtre, qui lui demande s'il est le Messie. Jésus va répondre.
Tu le dis, seulement je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme, siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel.
On attendait donc du Messie qu'il se manifeste de manière divine. Or, le Messie Jésus va se manifester le plus pleinement de manière humaine. Jésus sera en effet vulnérable et tenté comme chaque être humain. Et c'est ainsi qu'il pourra pleinement se révéler comme étant l'amour, l'amour véritable, la grâce. Car pour aimer véritablement, il faut être humble et petit, et donc vulnérable, et libre, être capable de choisir entre le bien et le mal. Jean dira lui-même par deux fois « Et moi, je ne le connaissais pas ». On comprend que la connaissance dont Jean parle est autre chose que la connaissance banale. Le verbe « connaître » dans la langue juive signifie au contraire cette connaissance intime qui dévoile l'être profond. Jean, puisqu'il est de la parenté de Jésus, son cousin, a dû le rencontrer depuis son enfance. Mais Jean ne connaît pas Jésus comme Messie. Il déclarera que c'est Dieu lui-même qui va lui révéler le Messie comme étant celui qui peut baptiser dans l'Esprit divin, car il en est lui-même pleinement empli.
Moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu.
Ce n'est que Dieu lui-même qui peut faire connaître le Messie, qui peut inspirer à un esprit humain la présence divine en Jésus. Cette présence divine, elle est signifiée par la présence de la grâce, c'est-à-dire de l'amour gratuit. Là où est la charité, là se trouve Dieu, disait un répond latin, ubi caritas et amor, deus ibi est. La première lettre de Jean nous le confirme.
Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour.
Ce don de l'Esprit nous est transmis par le Messie, qui se présente comme l'époux du peuple de Dieu. Les récits des noces de Cana vont en effet présenter Jésus comme l'époux divin qui donne le vin de l'Esprit, ce vin de l'Esprit qui remplace l'eau des rites de purification. Écoutons ce commentaire de Jean-Yves Leloup.
Le vin de la charité faisait défaut, car il avait reçu un esprit de servitude qui les laissait dans la crainte. Mais le Christ changea l'eau de la crainte en vin de l'amour, puisqu'il nous donne un esprit d'adoption filiale qui nous fait crier « Abba, Père ». Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Jean, lui, n'est que le témoin de l'époux, comme il le déclare.
Celui qui a l'épouse et l'époux, quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute. Et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite.
Il semble bien que cette mission de Jean d'être le témoin de l'époux soit aussi le sens de son affirmation « Lui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale ». On fait souvent de cela un aveu d'humilité, mais citons le commentaire qu'en fait Alberto Maggi.
Dans la culture occidentale, l'expression peut paraître une pieuse marque d'humilité de la part du baptiste. Mais la formule appartient aux normes juridiques qui règlent le mariage juif et s'insère dans la symbolique juive du rapport existant entre Dieu époux et Israël épouse. Jean affirme que ce n'est pas lui l'époux, mais Jésus. Quel lien pouvons-nous faire avec notre aujourd'hui ?
Eh bien, nous sommes dans un monde qui est étouffé par les forces de la consommation. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le besoin d'une vie spirituelle semble se faire entendre de plus en plus fort, chez des croyants en Dieu, mais aussi chez des agnostiques. Alors, eh bien, pour ceux qui croient en Jésus, ils doivent être, comme Jean le Baptiste, des témoins. Les témoins quand cet homme, Jésus, l'amour, la grâce, la bonté de Dieu se révèle. Oui, en Jésus, la bonté divine s'est faite humaine. Et Jésus est vivant aujourd'hui pour nous faire vivre de cette bonté. Car ce qui nous fait véritablement divin, ce n'est pas d'abord de pratiquer des rites de prière. Ces rites sont bien sûr importants, mais ils sont insuffisants à nous diviniser. Ce qui nous divinise, c'est de vivre de l'agapé, de la charité, de la grâce, de la bonté généreuse et gratuite. C'est là que se trouve la vraie vie. Écoutons pour terminer Ces quelques mots du poète Jean Sullivan.
Le feu central existe. La seule chose vraiment étonnante dans le monde, ce sont les hommes et les femmes qui sont capables de désintéressement. Les mystiques et les saints. Toutes les petites gens qui éclairent et réchauffent autour d'eux et qui sont les témoins du Saint-Esprit sans même le savoir. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Voici une annonce un peu spéciale. De janvier à avril, nous offrons un parcours d'initiation à l'Évangile pour tous ceux qui souhaitent mieux se former à la lecture priante de l'Évangile et éventuellement au partage en groupe. Ce parcours d'initiation à l'Évangile aura lieu donc chaque mardi soir du 4 janvier, du baptême de Jésus, au 11 avril, la résurrection de Jésus. Et ce sera de 18h à 21h. La première demi-heure sera consacrée à un petit souper fraternel, chacun apporte son sandwich. Puis il y aura un enseignement autour d'un texte d'Évangile. Et après une pause, un échange entre les participants pour s'approprier ce texte pour aujourd'hui. Et enfin, un temps de prière. Ce parcours d'Évangile est donné au 44-49 rue Berry, juste en face du métro Mont-Royal. Le nombre des places est limité à 25. Alors pour s'inscrire, on peut téléphoner au 514-931-7311, 931-7311. C'est le poste 253 et on demande Monique Paquin.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.